membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a une bande droite, c'est marqué ben, Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, sont déjà dans totalement
irresponsables. Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 FM et c'est le Canu Info du vendredi anticarcéral qui commence.
Ah.
Et on a un petit problème technique. Alors ce soir au menu, il va y avoir... quelques trucs d'abord qui concernent pas les prisons.
Donc on continue. On va ensuite avoir, comme tous les 15 jours le vendredi, des infos qui concernent les prisons, du coup des infos plutôt à l'international. Et ensuite, pas mal d'infos sur soit des rapports qu'il y a eu sur les prisons, le record du nombre de détenus, des trucs comme ça. Et puis un petit peu de musique. Et enfin, en fin d'émission, on passera des messages pour les détenus des tôles de la région. Alors on parle tout de suite de ce qui s'est passé à Valence.
À Valence, c'est une petite info qui date de cette semaine où il y a la mairie qui a décidé d'expulser un camp de Roms et de camp avec beaucoup de personnes qui habitaient là dans la zone de couleur près de Valence, du coup dans la Drôme au sud de Lyon. Les forces de l'ordre ont fait leur expulsion et surprise dans le week-end qui a suivi, quand les employés de la mairie sont arrivés sur leur lieu de travail, ils ont pu constater qu'une vingtaine de véhicules municipaux, en gros tous les véhicules de la mairie qui étaient garés dans un parking municipal, avaient leurs pneus crevés, 74 pneus crevés au total, c'est quand même bien joué. Avec comme tag nos expulsions et collabo, comme ça le message est clair. Voilà, la seule réaction de la mairie, ça a été on va installer des caméras sur le parking municipal, c'est tout. Et puis, ben, tant pis pour elle.
Pas de réflexion politique un peu plus profonde, quoi. On va enchaîner en passant un premier jingle pour annoncer un événement qui se passe le 9 mai à Ursa Minor à Saint-Étienne, qui est du son contre la prison. Donc c'est la 4e édition, je crois. Et donc c'est un événement, comme va vous l'expliquer le jingle. C'est des concerts qui et des prises de parole pour tous les taulards de la zone francophone, on va dire. et d'ailleurs, s'ils veulent. Et c'est retransmis sur pas mal de radios locales. Donc, pour les personnes qui sont à l'intérieur des tôles et qui nous écoutent, vous pouvez vous brancher sur Radio Canu le 9 mai à partir de 20h pour écouter du coup cet événement, concert et prise de parole. On écoute le jingle.
Le 9 mai, c'est du son contre la prison à Ursa Minor, à Saint-Étienne.
Le 9 mai, c'est un concert de rap avec Tornade.
Mélange de flow et de rimes conscientes, tout le contraire de ces zics commerciales dansantes.
Dialectique musique et Billy Breloc.
Et c'est quand le présent, et c'est quand qu'on rentre dedans, et c'est quand qu'on range les dents.
Du son contre la prison.
Du son contre la prison.
Du son contre la prison.
Du son contre la prison. Du son pour les prisonniers et les prisonnières.
Du son pour briser l'isolement.
Des échos à des luttes qui se passent derrière les barreaux.
Des ondes qui traversent les murs, ouvrent des brèches et déjouent la censure.
Le 9 mai, c'est du bon son de 21h à minuit.
En direct sur ta radio locale et sur plein d'autres radios en France et en Belgique.
Alors on se retrouve sur les ondes le vendredi 9 mai.
Et voilà pour l'annonce du son contre la prison. Et on continue avec des infos d'abord internationales à propos des lieux d'enfermement dans le monde. Et ça commence avec Manus, qui est un centre de rétention australien délocalisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, duquel on parle assez souvent, en plus de celui de Nauru, qui est le même système sur l'île-état de Nauru. À Manus, il y a eu, le 17 février dernier, il y a eu un meurtre. C'était un retenu, un sans-papier qui est arrivé en Australie, qui a été enfermé à Manus, à 5000 km de l'Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que l'Australie a la bonne idée de délocaliser ses l'enfermement des migrants. Et c'était une expédition punitive de gardiens du centre de rétention qui ont tabassé à mort Reza Berati, qui est un migrant iranien de 23 ans. Ces gardiens, c'était des Papous et des Australiens mélangés qui ont fait une expédition dans le camp. Du coup, depuis, les gardiens... le problème, c'est que Reza Berati est mort, il n'y a personne pour mener une enquête sur les circonstances de sa mort, mais il y a quand même 5 témoins oculaires parmi les détenus, parmi les sans-papiers enfermés là-bas. Et depuis, les gardiens auraient proféré beaucoup de menaces de mort contre ces 5 demandeurs d'asile, témoins du meurtre. Mais il y a même l'identité d'un d'entre eux qui a été révélée en une d'un quotidien papou, quoi. C'est quand même assez fou. Et du coup, la sécurité des témoins ne peut plus être assurée s'ils restent à Manus et ils demandent d'être transférés ailleurs, et notamment sur le territoire australien. Du coup, il y a une procédure qui est en cours, mais c'est hyper long et voilà. Et parallèlement à ça, il y a, au nom des 350 migrants enfermés à Manus, il y a une procédure qui est engagé pour que le gouvernement australien justifie la détention de ces migrants, approuver qu'elle est légale et bien sûr comme espérer qu'elle soit déclarée illégale et que le camp soit fermé. Mais avant d'y arriver, ça va prendre pas mal d'énergie. Du coup, il y a des pétitions qui circulent un peu partout et même à l'intérieur du camp. Voilà ce qu'on peut dire sur l'île de Manus.
Alors, on part sur une info à New York. Donc un appel à l'aide envoyé d'une prison chinoise atterrit dans un sac de course à New York. Donc c'est une personne qui achète des choses là, qui donc une dame qui est allée faire ses courses et qui a trouvé donc ça c'est pas très clair, elle vient d'acheter une paire de bottes et du coup elle trouve une lettre de quelqu'un qui est enfermé dans une tôle en Chine et qui dénonce donc ses conditions d'exploitation. Je cite, il dit que nous sommes maltraités et travaillons comme des esclaves pendant 13 heures par jour pour confectionner ces sacs dans l'usine de la prison. Merci et désolé de vous déranger, il dit même à la fin, etc. Donc voilà, ça devait se trouver dans le sac en plastique ou dans le sac dans lequel elle a mis ses achats. Et donc cette dame prend au sérieux cette lettre, vu qu'en plus ça fait quand même écho à ce qui s'était passé déjà en décembre 2012, où là c'était aussi une personne aux États-Unis qui avait trouvé une lettre dans une décoration de Noël et qui demandait, qui était aussi un appel au secours et qui demandait à ce que, ben en fait c'est des messages qui vont aux personnes qui consomment les biens qui sont produits dans des conditions d'exploitation totale en Chine, les personnes envoient ces lettres par le biais des produits qu'elles fabriquent pour que les consommateurs puissent savoir un petit peu dans quelles conditions sont faits ces produits et puissent relayer leur appel. Du coup, cette nouvelle lettre, la personne a pris ça bien au sérieux et a pu contacter une ONG à Washington qui travaille spécialement sur les droits des prisonniers en Chine. Et notamment, il y a aussi un contact possible avec la personne qui avait écrit, puisqu'elle avait laissé son adresse. Donc, il y a même un journal qui a pu vérifier l'information, etc., prendre contact avec la personne qui apparemment était très surprise et très contente d'avoir un contact. Alors, ça va pas changer la réalité des prisons, de l'exploitation de certains pays et de certaines populations par d'autres, hein. C'est pas révolutionnaire, mais bon, ça a le mérite de montrer qu'il y a quand même des choses qui sortent, qu'on trouve toujours des moyens de faire sortir des messages des tôles et de les faire parvenir à des personnes qui auraient tendance à oublier la réalité dans certains endroits. Voilà.
On continue à l'international et on se rapproche pas mal de la France avec Marche en Famène, qui est une petite commune de Belgique, petite commune qui a inauguré une nouvelle tôle en novembre dernier, une tôle qu'on nous a vendue comme humaine, luxueuse, tout ça, où il n'y aura pas de surpopulation, où les conditions de détention seront propres à respecter les droits humains et tout ça, avec douche, téléphone, internet en cellule, attention. Mais voilà, il y a les premiers retours de cette tôle qui arrivent et c'est pas aussi
formidable
que l'administration pénitentiaire belge voulait le vendre au départ. Haute sécurité, atomisation des détenus, fausse amélioration, voilà le tableau, avec des douches en cellule où en fait il y a droit qu'à juste 15-20 minutes d'eau par jour et encore à une heure bien déterminée par l'administration. Du coup, si un ou une détenue rate ce moment parce qu'elle est en promenade, un parloir, une activité où elle dort, bah tant pis, y a pas de douche, quoi. Ce fonctionnement n'offre donc aucune autonomie aux tôleurs, et en fait, ça sert juste à supprimer les mouvements vers les douches, et donc empêcher cette possibilité de rencontre entre détenus. Pareil, le téléphone, on ne peut appeler que certains numéros approuvés par l'administration, pendant des durées limitées, avec un nombre de minutes fixé par jour. C'est qui limite encore pas mal, quoi.
Oui, puis du coup, ça fait vachement penser que c'est quand même une reprise de pouvoir de l'administration pénitentiaire qui offre des mini-droits parce que, de toute façon, elle est débordée vu qu'il y a plein de portables en tôle. Et du coup, c'est un peu une façon de reprendre le dessus sur cette pratique qui existe déjà, en fait. Au lieu d'autoriser les portables dans les cellules, et ben on va autoriser des téléphones de façon très réduite pour limiter et puis justifier le fait qu'on interdise complètement les portables, qu'on fasse des fouilles, etc., quoi.
Bien sûr, et garder toujours le contrôle sur tout ce qui se dit, sur qui est appelé.
Sur ce qui est filmé, surtout aussi. Enfin, c'était aussi ce truc-là que les téléphones portables en tôle permettaient de filmer, prendre des photos, etc. Et puis, du coup, ça plaît pas à l'administration pénitentiaire, quoi.
Et oui, on peut continuer avec Internet. Oui, Internet en cellule, avec seulement les sites qui donnent accès à la recherche d'emploi ou de formation. Alors, en Belgique, il n'y a pas Pôle emploi, mais c'est vraiment le fun comme site Internet. Ça donne envie de naviguer dessus toute la journée. Surtout quand il reste quelques mois ou quelques années de tôle et que répondre à une demande d'emploi, c'est complètement hors propos, quoi. Enfin bon. Et puis, il n'y a pas de plaque chauffante en cellule. Du coup, une pièce par elle seulement fait fonction de cuisine collective. Ça fait trop de gens qui cuisinent à la fois. et c'est la merde pour se faire à manger. Enfin voilà, et sinon le reste c'est partout comme dans toutes les autres tôles, à part que toute communication passe par le télécom, les contacts avec le personnel sont aussi réduits à leur minimum, ce qui n'empêche pas quand même, il y a un maton ou deux qui se sont fait taper dessus depuis novembre. Et voilà, et c'est juste pour rappeler que chaque ouverture de prison est pour la justice aussi une occasion de mettre en place ces derniers trucs électroniques pour contrôler le monde et d'assurer une plus grande sécurité à son infrastructure, et en fait c'est le seul objectif de tout ça. Et il faut rappeler aussi qu'en juin 2012, il y avait eu quelques personnes qui avaient clairement exprimé leur désaccord avec cette tôle en posant des engins explosifs sous les trucs de chantier. Là.
Les engins.
Des bombes sous les engins de chantier, on pourrait dire ça. On s'écoute une petite musique sous forme de van-van.
Et oui, parce que c'est en hommage au musicien cubain Juan Formel qui est mort hier, qui est fondateur des Los Van Van. Et ben, on a décidé de passer nos Van Van à nous, donc grâce et volupté Van Van. Voilà.
I was on the street at midnight, the last one to use public phone. This guy asked me a lighter and start pushing talking. I say, hey man, I'm in the middle of a dyke drama. He locked me on the box and touched my boob.
He touched your boobs?
My boobs.
Your two boobs?
Yeah.
I saw.
You better run, cause I got my pussy gang. Run, run, pussy gang. Street with my pussy gang, and what an unlucky man it seemed at the other side of the street. And my pussy bounce,
jump up,
strike up.
Voilà pour Pussy Gang des Van Van. Et on continue avec en France, où dans une prison à Vivonne, dans la Vienne, il y a un détenu qui est malade et qui se plaint et d'être incarcéré dans la même cellule qu'un gros fumeur et envisage une procédure contre la prison. Et même il invoque la loi Evin, quoi, cette loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et tout ça. Et il dit que c'est vraiment impossible d'être incarcéré avec un détenu qui fume abondamment, tout ça, c'est la gêne. Mais aussi, il a un traitement médical et la fumée, ben, ça le fout en l'air, quoi. Alors, ça fait plusieurs fois qu'il intervient contre l'administration pénitentiaire, qu'il alerte le directeur de la prison, le directeur interrégional des services pénitentiaires, tout ça, rien n'y fait. Du coup, Ça y est, une plainte va être déposée à Poitiers pour porter plainte contre la prison et saisir peut-être aussi le tribunal administratif. Selon le guide du prisonnier, qui est édité par l'OIP, l'usage du tabac est toléré dans les cellules, dans la mesure où elles sont occupées exclusivement par des fumeurs, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là. Et loin de nous l'idée de vouloir interdire la cigarette en cellule, c'est pas du tout ça, puisque je pense qu'il y aurait plein de détenus qui pèteraient vraiment un câble. Mais juste, c'est le minimum des choses pour la paix, de pouvoir séparer les détenus qui veulent pas cohabiter ensemble pour une quelconque raison, et la cigarette en est une, et voilà quoi. Enfin voilà, c'est une petite info comme ça, et on va continuer maintenant avec le record de détenus en France, c'est ça ?
Eh oui, puisque en avril, là, il y a les chiffres qui sont tombés, et que donc il y a 68 859 personnes qui sont incarcérées. C'est un nouveau record en France de personnes incarcérées. C'est bien des fois de rappeler ce chiffre, parce que des fois on sait pas trop de combien de personnes en parlent. Donc voilà, on parle quand on parle des personnes détenues. Donc c'est pratiquement 69 000 personnes, dont 800 personnes à peu près qui sont mineures, qui sont incarcérées. Pour avoir une idée, j'ai pas les chiffres là exactement non plus de combien là ça compte toutes les personnes incarcérées, mais qui sont soit en préventive, soit en qui ont déjà eu, enfin qui ont leur peine qui a été prononcée, qui ont déjà eu leur jugement, etc. C'est donc 69 000 personnes, on va dire, incarcérées pour 57 000 places. Donc il y a 12 000 personnes de plus que de places qui sont incarcérées. Donc ça fait quand même pas mal pour quand on parle de surpopulation, voilà, c'est ça. Et une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé un article sur le Figaro.
Source de référence à Radio Canu.
Et voilà. Et alors c'est assez rigolo, parce, enfin bon, rigolo. Ça m'a fait rire quand même, parce que c'est vrai que c'est pas le discours que nous on porte ni qu'on a l'habitude de lire, mais voilà, là c'est un plaidoyer sur le fait qu'il faut construire 30 000 places de prison de plus, quoi, pour résoudre le problème de surpopulation carcérale. Donc, alors il y a plusieurs arguments qui sont développés. Je vais pas tout développer parce que j'ai pas vraiment réussi à lire l'article. Je l'ai lu un peu en diagonale, mais voilà quoi. Comme argument, il y a que par exemple en Espagne, il y a beaucoup plus de places de prison, puisqu'il y en a 76 000, alors que la population est moins importante qu'en France. Qu'au Royaume-Uni, alors qu'il y a une population identique à la France, il y a 96 000, soit 40 000 places de plus. Alors bon, est-ce que c'est vraiment des exemples à suivre ? On peut se demander. Et c'est vrai qu'on va pas souhaiter ici qu'il y ait plus de places de prison, que ça soit ça la solution pour résoudre tous les problèmes que cause la surpopulation carcérale. Parce que bon, ça c'est juste une conséquence de l'enfermement aussi. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup là, le journaliste, il s'inscrit, enfin, il prend la position de dire que s'il y a plus de détenus, c'est d'abord et avant tout dû à une augmentation importante et continue de la criminalité. Qui dit plus de criminalité dit heureusement plus de condamnations, donc plus de détenus. Alors c'est quand même lui. Alors il fait partie de l'Institut pour la justice. J'ai pas creusé ce que c'était, mais ça pourrait valoir le coup, parce que quand même pour quelqu'un qui nous parle de justice, qu'il ait aussi peu de recul sur l'évolution des lois, l'évolution répressive des lois, notamment toutes les lois sur la sécurité intérieure ou les réformes de la justice avec les peines planchers, les peines sur la récidive qui font que les personnes retournent encore plus facilement en tôle pour des délits qui avant faisaient pas qu'ils allaient en tôle. Bon, ben, ça, c'est quand même un manque de profondeur de réflexion assez alarmant. Et puis aussi, du coup, moi j'avais envie de rappeler que si y a plein de personnes qui restent en prison, enfin, il y a aussi plein de condamnations qui tombent sur des détenus qui sont déjà en prison en fait, qui par soit geste de révolte, soit de résistance à l'humiliation quotidienne, aux conditions de vie, aux insultes et enfin voilà à tout ce qui est la vie en tôle et tout son lot de difficultés et d'horreurs au quotidien. Et ben oui, il y a des gestes de résistance. Et alors là, et ben on se fait tomber dessus et paf, on se reprend 6 mois hyper facilement. On tente de s'évader. Alors là, on se reprend 5 ans. On en parlera un petit peu après. Du coup, c'est aussi de ces condamnations-là qu'on parle, et aussi ben de toutes les condamnations qui sont faites parce que ça va être soit l'administration pénitentiaire, soit les flics qui vont porter plainte contre les gens parce que eux-mêmes ont fait des bavures et que pour se protéger, ben ils portent plainte en premier, quoi. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de rappeler à cet Alexandre Juglaris, ce délégué général de l'Institut pour la justice, donc qui a pas l'air de réfléchir tant que ça à la situation, puisque en fait voilà, bon bah je vais pas développer plus sur ce qu'il écrit parce que c'est pas plus intéressant que ça, voilà. Ça a juste cette profondeur là et ça réfléchit pas à ce que sont effectivement les condamnations, le système répressif, et voilà.
Eh ben merci.
Je vous en prie.
Et on continue avec un autre rapport, deux autres rapports qui sont parus par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, une institution consultative qui siège à Strasbourg et qui dépend de l'Union européenne, mais qui en fait va chercher bien plus loin que l'Union européenne parce qu'elle fait des études sur la Russie, sur la Turquie et des pays qui sont non membres de l'UE. En tout cas, elle publie plein de choses sur les droits humains, sur tout ça. Et elle publie 2 rapports en même temps sur les conditions carcérales dans les pays européens, du continent européen. Et alors, ces 2 rapports, ça s'appelle Space 1 et Space 2 en anglais, quoi. Ça veut dire espace quand même. Enfin, ils ont complètement taré d'ironie. Mais dans ces rapports, on peut, dans une certaine mesure, comme ça, comparer ce qui se passe en France avec ce qui se passe dans d'autres pays du continent. C'était publié avant-hier et voilà, il y a 1 737 061 détenus recensés en Europe. 25% d'entre ces personnes-là n'ont pas été condamnés définitivement. Du coup, il y en a 25% qui sont en préventive sur 1 700 000. Ça fait du monde qui est en préventive.
Ouais. Et aussi, ce que j'ai pas dit tout à l'heure quand je disais les chiffres, et ça vaut aussi pour tes chiffres, je pense, c'est que là, on compte que les détenus qui sont en prison. On parle de détenus et on parle pas des retenus qui sont en centre de rétention. Mm-hmm. Ça, c'est des personnes qui sont pas comptabilisées dans les chiffres qu'on donne. Je pense que c'est important à dire aussi pour pas oublier, en fait, qu'il y a aussi des personnes en centre de rétention.
Donc ça monterait beaucoup plus haut. Il y avait 47 États, pardon, qui ont répondu à l'étude, et dans 21 États, les établissements sont surpeuplés. En général, ça fait une moyenne de 98 détenus pour 100 places, en moyenne. Par contre, il y en a 132 en Belgique, 145 en Italie, 160 en Serbie, et la France doit être autour de 140 aussi. L'état des établissements, la vétusté et tout ça, ça l'intéresse pas trop, ces trucs-là. C'est un autre truc sur la torture dans le Conseil de l'Europe qui
s'en occupe. Juste sur les trucs de surpopulation, du coup, c'est qui a des prisons vides pour parce que ça, si la moyenne c'est 98 et qu'il y en a qui sont à 170, j'imagine qu'il y a des prisons vides à des endroits.
Ouais, mais la Suède, par exemple, elle a des prisons vides. Les Pays-Bas aussi ont des prisons vides, mais en fait, ils les remplissent avec les détenus belges, que la Belgique loue des places de tôle aux Pays-Bas, ce qui est super pratique pour les parloirs. Quand on est, quand on habite quelque part en Belgique francophone, là au sud, et que les détenus sont à Amsterdam ou au nord des Pays-Bas, ça va être super, quoi.
Donc il y a de la sous-traitance entre États pour les détenus.
Voilà.
Intéressant.
Et voilà. Alors le Conseil de l'Europe face à la surpopulation, qu'est-ce qu'il dit aussi ? Il dit il faudrait développer. Alors pas autant que le Figaro. Il dit pas il faudrait construire des nouvelles places de prison. Par contre, il dit ce serait vraiment bien d'avoir plus de prisons à la maison, quoi. L'approbation, l'approbation, là, ces trucs où tu fais plein de trucs et plein d'obligations et de rendez-vous et tout ça. Sinon, tu vas en prison. Les services à la collectivité, le bracelet électronique. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de prison à la maison. L'assignation à domicile sous surveillance, tout ça c'est à développer pour le Conseil de l'Europe. Bon, dans une certaine mesure, c'est peut-être mieux pour certaines personnes que d'être entre quatre murs. Pour d'autres personnes, c'est encore plus invivable si la maison c'est hyper stressant comme lieu, quoi. Voilà. Et du coup, on disait que les Pays-Bas accueillent les détenus belges.
Ouais. Ouais, juste pour revenir sur les peines alternatives comme le bracelet électronique, c'est aussi une manière d'étendre la possibilité du système répressif et de punition en dehors des murs, donc avec beaucoup moins de problématiques logistiques, justement. Donc, on s'emmerde plus avec la surpopulation. On punit les gens chez eux, alors on a même plus à se préoccuper de les faire bouffer et tout ça, quoi.
Et puis pour les juges, c'est beaucoup plus facile de dire, ah mais on va vous mettre 6 mois ferme, mais de toute façon vous le ferez sous bracelet, le juge peut dormir tranquille le soir, il a pas envoyé 10 personnes de plus en prison, quoi. Et on continue avec l'étude européenne sur quels sont les motifs pour aller en prison. Alors le premier motif, on s'en doutait, c'est le vol, voilà, 17%. Ensuite, il y a les drogues, toutes les législations face aux drogues, quoi, 17% aussi. Et rien que ça, ça fait combien ? 17 et 17, 34. Un tiers des détenus qui sont là pour des trucs sur le droit à la propriété et sur les stupes, quoi, avec, je sais pas encore, le cannabis qui doit être hyper surreprésenté dans ces détenus-là. Et enfin, il y a le rapport qui met en évidence une augmentation des taux de suicide en prison et du nombre d'étrangers incarcérés dans tous les pays d'Europe, quoi. Et ça va jusqu'à 74% en Suisse. Alors la Suisse a des tôles, quoi, et en tôles qui y vont, c'est pas des personnes de citoyenneté suisse, c'est des personnes de citoyenneté de partout ailleurs. Voilà pour ce qui est des études Space 1 et Space 2 du Conseil de l'Europe.
Et ben merci. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser aussi quand on parle répression et contrôle et du coup contrôle aux faciès et tout ça. J'ai vu qu'il y avait une campagne. Alors j'ai pas compris exactement qui était le collectif derrière tout ça, mais ça s'appelle Arrêter d'être. Et c'est sur Tumblr, vous voyez ce truc où il y a des sortes de blogs où tu peux mettre des images avec des sens. Et du coup, ils font des affiches sur marre d'être contrôlé au faciès. La solution est simple. Le gouvernement te la donne. Arrête d'être arabe. Enfin voilà, et toute une série. Ah, tu veux prendre le métro, tu peux pas. Il y a des escaliers. La solution est simple. Arrête d'être handicapé. Voilà. Et du coup, il y a justement plusieurs affiches sur la répression, mais aussi sur le sexisme, le racisme, le validisme et tout ça. Du coup, voilà, j'en profite pour signaler ça au passage.
Regardez si vous avez un accès à Internet avec autre chose que le site du Pôle emploi.
Voilà.
On continue avec Delarue.
Oui, alors Delarue, le contrôleur général des prisons, qui va bientôt finir son mandat. Mais j'ai oublié de vérifier cette information, mais il me semble que quand même, ça fait longtemps qu'il y est et qu'ils sont nommés que pour 6 ans. Donc il devrait bientôt arrêter. Bref, là on entend parler de lui encore parce que pour la 4e fois depuis le début de son mandat, il a recours à la procédure dite d'urgence. Donc, vous voyez, c'est le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Donc, en fait, il a le pouvoir d'envoyer des contrôleurs dans des lieux de privation de liberté, qu'ils soient, du coup, les prisons, maisons d'arrêt, centres de détention, etc. Les centres de rétention aussi, et je crois aussi les lieux d'enfermement psychiatriques. Et les hôpitaux-prisons.
Et il a envoyé des contrôleurs aussi dans des maisons de retraite, ce qui a fait énormément scandale à un moment, parce que les directeurs de maisons de retraite disaient « mais nous, on n'enferme pas les gens ». Mais quand même, il les gardait dans des situations invivables.
Du coup, voilà, ça c'est un peu son rôle. Et du coup, il a des gens qui vont dans ces endroits, qui sont en droit d'exiger pas mal d'informations, de voir, de visiter les cellules, de visiter plein de lieux dans ces lieux de privation de liberté. Voilà. Donc, à la base, on peut se dire que c'est quand même un truc assez pas mal, parce que ça fait une personne effectivement qui a un droit de regard sur tout ce qui se passe, parce que en vrai, sinon il n'y a pas de regard extérieur, personne sait peut faire sortir d'informations à part les détenus, puis c'est pas eux qu'on va croire. Donc lui, il peut y aller et faire des rapports. Bon ben voilà, après il fait des rapports,
super.
Quoi. Donc là, il a fait un rapport et il a recours à la procédure donc dite d'urgence. Alors, j'ai essayé de chercher ce que ça voulait dire, la procédure d'urgence, pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Alors l'urgence, c'est
je suis pas bien sûre, mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il a le droit de faire publier au journal officiel les informations qu'il a.
C'est super comme urgence. Quoi. Sous 8 jours, c'est publié dans le journal officiel.
Et de faire lire en assemblée son rapport. Quoi. Donc, apparemment, c'est passé mercredi à l'assemblée.
C'était entre 2h et 3h du matin.
Ouais, voilà, un truc comme ça, session question gouvernement. Voilà, il a fait son rapport. Donc son rapport, ça parle de la prison de Villeneuve-les-Maglones, qui est du coup un établissement pour mineurs, où il dénonce la violence particulière qui a lieu à l'intérieur en fait de cette tôle, puisque du coup, en fait, il a vraiment observé un peu un système de bizutage où les nouveaux sont tabassés par les autres. Enfin, qu'il y a une super grosse violence entre les détenus eux-mêmes, qui certainement, on peut quand même se dire que ça découle aussi de la situation des tensions qu'il y a avec le personnel, tout ça, quoi. Hein. Enfin, faut pas oublier dans quelle situation sont les personnes. Et du coup voilà, alors et que l'administration pénitentiaire en plus laisse faire, donc elle enferme des personnes ensemble, il y a des personnes dedans qui se font tabasser, puis l'administration pénitentiaire laisse faire en connaissant bien sûr ce qui se passe, mais voilà. Et du coup donc lui il a vraiment voulu souligner ce qui se passait, donc il a fait un rapport. Et alors qu'est-ce qu'il préconise, parce que là on pourrait se dire bon, alors il a vu ce qui se passait, ça va pas,
la fermeture de la prison,
il a le pouvoir de dire qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il va dire alors, eh ben non. Alors c'est ni changer les conditions de détention. Bon, fermer la prison, on n'en parle même pas. Hein. Changer les lois, on n'en parle même pas.
Virer tous les matons.
Virer tous les matons, on n'en parle pas. Non. Mais on se dit ah bon, peut-être il s'est aménagé un petit peu l'arrivée. Je sais pas. Enfin, non, lui, ce qu'il veut, c'est du coup que on prenne en charge les victimes. Avec l'aide plus active des médecins, donc c'est sympa. Et puis aussi qu'il y ait plus de surveillants du coup pour éviter la récupération des projections, des trafics et les violences. Donc plus de surveillance, quoi, et puis plus de répression, que en fait il n'y ait pas de violence qui puisse. Enfin là, je vais citer, ça va être plus clair. Il juge inacceptable que les violents puissent développer dans la prison un sentiment d'impunité comparable à celui qu'ils peuvent éprouver au dehors. Donc ça serait encore plus punir les jeunes qui sont déjà enfermés. Donc voilà, pour dire que c'est pas très intéressant. Et quand, enfin voilà, donc il a ce pouvoir d'aller voir ce qui se passe, de pouvoir témoigner, mais après aussi bien les recommandations qu'il fait que le pouvoir qu'il a, ça sert à rien.
Bah, et, si c'est pour avoir des recommandations comme ça, autant qu'il ait pas de pouvoir.
Ouais. Et du coup, de toute façon, le gouvernement n'a pas répondu. Donc, bon, voilà.
Voilà. Et maintenant, on va parler des dernières lectures, c'est ça, Canus, ouais. De la recension d'ouvrages.
Bon, recension rapide. Hein. C'est juste que on avait déjà parlé à Canus, peut-être pas dans ces infos-là, mais du livre Girl Fight de Audrey Chenu.
Chenu.
Chenu. Voilà, qui raconte un petit peu son parcours, notamment la détention, comment elle s'en est sortie, comment elle s'est révoltée à l'intérieur, etc. Et là, depuis le début de l'année, il y a deux livres de meufs qui sont sortis. Du coup, il y a eu en janvier d'abord le journal de bord d'une détenue, ça s'appelle, de Josina Godley. Alors, on les a pas lus. Il y a certainement des trucs politiquement avec lesquels on n'est pas d'accord, ou je sais pas, avec le ton, enfin de ce que j'ai pu voir, le ton était pas forcément celui qui porte les mêmes idées que nous. En tout cas, ça reste le témoignage d'une personne qui a vécu, qui a du coup été détenue pendant 3 mois, je crois, pour vol, etc., et qui raconte ses conditions de détention. Donc, voilà, c'est un témoignage. Et dans le même genre, il y a aussi Vanessa Cosnefroy qui a sorti un livre qui s'appelle 9 mètres carrés aux éditions Stock, et qui, du coup, revient sur sa détention qui a duré quand même 5 ans cette fois, et notamment sur le fait qu'elle, elle faisait partie des détenus indociles, entre guillemets. En tout cas, elle a montré pas mal de gestes de révolte, ce qui a fait qu'elle a fait quand même 10 maisons d'arrêt. Elle a été beaucoup transférée pour raisons disciplinaires, etc. Elle a ce parcours-là, et voilà, ça fait du coup un autre témoignage. Donc c'était intéressant de vous les indiquer. On écoute une petite musique, du coup, cette fois c'est Viscéralement Déviant, et c'est leur chanson Bout de Femme, et on peut faire une petite dédicace à Yonet qui nous écoute certainement. Un gros bisou.
Avant de passer au bref et au message, bien sûr.
Dynamique de combat. Dynamique de l'émoi, dynamique de combat, dynamique de l'émoi. Une rhétorique qui vaut le coup, les normaux interloqués restent à genoux. Et nous toujours fiers d'être debout. Bouche femme, dynamique de combat. Bouche femme, dynamique de l'émoi. Les rôles déjà distribués, impossible pour toi d'imaginer. Pas de chance, pas la possibilité d'inventer. Maman, papa, je ne joue pas de cette dynamique là. Maman, papa, je veux et je vis bien mieux que ça. Moi, j'ai ce luxe de tout pouvoir créer. Pas de modèle à imiter. Elle, moi, notre intimité partagée. Une sensualité sans cesse redessinée. Tu la prends pour une hétéra. Et moi, pour un gars. Ça t'arrangerait que ce soit si banal que ça. Heureusement pour nous, on est bien loin de ces schémas-là. Butch femme, dynamique de combat. Butch femme, dynamique de l'émoi. Butch femme, dynamique de combat. Butch femme, dynamique de l'émoi. J'ai la chatte encore toute lubrifiée de la dernière fois où elle m'a fisté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça que t'avais imaginé? Active ou passive? Ça ne m'a jamais parlé. Active et passive, c'est là que je prends mon pied. Oh, je voulais pas te choquer, juste t'expliquer. Je te laisserai pas m'enfermer. Garde tes modèles pour toi. Tes sentiers battus ou pas, j'en veux pas. Moi je continue à créer, à rêver.
respect patriarcal.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, le Canu Info du vendredi soir anticarcéral. Et maintenant, nous allons passer au bref de détention. Parce que tous les jours et toutes les semaines, il se passe plein de petites résistances, plein de rébellions en prison. Des fois, elles sont petites et individuelles, des fois, elles sont grandes et collectives, des fois, elles sont petites et collectives, et des fois, elles sont grandes et individuelles. Et c'est important de les relayer.
Alors, un détenu britannique incarcéré dans la tôle d'Isis près de Londres a porté plainte. La tôle refuse qu'il pratique sa religion, le culte Jedi. Or, le Royaume-Uni a officiellement reconnu la religion de la guerre des étoiles, qui compte là-bas quand même 176 000 pratiquantes. L'administration pénitentiaire britannique est encore une fois du mauvais côté de la force.
Et on continue avec vendredi 18 avril. C'est un détenu qui a été condamné à 18 ans de réclusion et le soir même, il a mis le feu à sa cellule dans la maison d'arrêt de Besançon. Il n'a que des blessures légères, heureusement pour lui.
Lundi 21 avril, un maton a eu la mauvaise idée de récupérer un colis envoyé dans la cour de promenade depuis l'extérieur de la tôle d'Angers. 5 détenus lui sont tombés dessus et le maton a fini sa journée à l'hôpital.
Le même jour, une importante mutinerie a eu lieu dans la prison de Séquedin à partir de 15h30, avec une soixantaine de détenus qui refusaient de remonter de promenade. Ils protestaient contre le prix des aliments vendus à la cantine et contre l'absence de nourriture halal. Après l'intervention des ERIS, donc les super matons, les détenus sont retournés en cellule en fin de soirée. On ne sait pas s'ils ont obtenu gain de cause, mais 3 détenus ont été mis à l'isolement et 3 autres ont été transférés.
On continue avec la même tôle de Séquedin. C'était le 23 avril. 3 personnes ont tenté de lancer des colis au-dessus de l'enceinte de la tôle. Petit détail, en découpant préalablement le grillage pour se faciliter la tâche. Bon, pas de chance, les 3 personnes ont été interpellées par les flics.
Le 26 avril, 6 détenus sont morts étouffés dans la tôle d'Amsinéné au Tchad. Selon les activistes, leur mort est due à la construction de nouvelles cellules de béton où l'air devient irrespirable en période de forte chaleur. Du coup, c'est un peu mal barré pour l'été à venir.
Le même jour, dans la tôle de Val-de-Reuil en France, un détenu à l'isolement a profité de l'arrivée du repas pour faire part de son mécontentement au maton. Après en avoir mis 2 à terre, il a frappé le 3e à plusieurs reprises. La paix ne dit rien des raisons de sa colère. Ça devait certainement dépasser juste le repas.
Le lendemain, c'était le 25 avril, une personne enfermée au centre de rétention administrative du Canet à Marseille s'est rebellée en empêchant apparemment une porte de se refermer. En garde à vue, cette même personne a continué à se rebeller contre son enfermement et s'est tailladé le ventre pour protester. Elle est maintenant hors de danger.
Le même jour, un détenu a mis le feu à sa cellule dans la tôle de l'Ain. Il a été brûlé au 3e degré sur 25% du corps et a été transporté à l'hôpital. Le seul commentaire des matons est scandaleux. Il a sûrement fait ça pour emmerder le monde. Rien n'est dit sur les raisons de son acte et on peut être certain que les matons n'y sont pas pour rien.
Autour du 26 avril, les personnes enfermées au centre de rétention administrative de Metz ont dû mettre un beau chaos dans le CRA. Donc, le centre de rétention administrative, évacuer des bâtiments, elles ont dû passer la nuit dehors. On ne trouve pas plus d'infos sur ce mouvement, les médias sont bien muselés.
On continue avec le 26 avril, samedi, un détenu a mis le feu à sa cellule dans la tôle de Neuvic-sur-l'Isle, en Dordogne. Par contre, il a été grièvement blessé, ses jours ne sont plus en danger. La paix ne dit rien des raisons de son geste.
Lundi dernier, un détenu s'est suicidé dans sa cellule de la prison de Valenciennes. D'après la paix, il s'est pendu avec ses draps.
Le 28 avril, dans la prison de Coutances, dans la Manche, un détenu s'est violemment rebellé face au maton. Ces derniers lui avaient confisqué son téléphone portable.
Le lendemain, et dans la même tôle de Coutances, un détenu a été surpris en train de boire de l'alcool. Le détenu n'a pas aimé les remarques du maton. Il aurait pris un air menaçant vers le directeur adjoint de la tôle, qui s'est blessé en plaquant le détenu contre le mur. Voilà, bichette, ça fait que le directeur porte plainte contre le détenu.
Comme on disait tout à l'heure.
Mercredi 30, un détenu a mis le feu à sa cellule dans la prison de Mende, en Lozère. Il n'a pas été blessé et l'administration pénitentiaire n'a rien dit sur les raisons de sa colère.
Le 1er mai, c'était pas la fête pour tout le monde. Un détenu a mis le feu à sa cellule à Montmédy, en Lorraine. Les matons ne sont pas intervenus et il est mort dans sa cellule. Ce détenu avait participé à une rébellion auparavant et il était à l'isolement.
Ce même jour, le 1er mai, une explosion, sûrement due au gaz, a eu lieu dans la tôle d'Escambia, en Floride, aux États-Unis. L'explosion a détruit une partie du bâtiment, a fait environ 150 blessés parmi les détenus et deux d'entre eux sont décédés.
Et du coup, on peut juste envoyer tous nos messages de soutien aux proches et aux familles de toutes ces personnes qui perdent la vie en tôle.
Et on va continuer avec les brèves d'évasion, parce que chaque 15 jours, on insiste sur le fait que les murs des prisons ne sont pas infranchissables, qu'ils peuvent les construire toujours plus haut, toujours plus sécurisés, avec toujours plus de matons et de caméras et de dispositifs, mais il y a toujours des personnes qui trouvent les moyens de passer au travers et de retrouver la liberté pour quelques jours, quelques heures, plusieurs années.
Le dimanche 20 avril, un détenu qui travaillait dans le jardin d'une tôle du Mississippi, aux États-Unis, s'est évadé, profitant d'être en dehors des murs de la tôle pendant quelques heures. Les chaînes de télévision locales s'empressent pour interviewer le shérif du coin, et en pleine interview, c'est l'ex-fugitif qui se rend en direct. Il a simplement changé d'avis.
Le 21 avril, deux détenus se sont évadés de la prison de Jau à Bahreïn. Difficile de savoir comment, mais on leur souhaite une longue cavale.
Le même jour, c'est un détenu de la tôle de Mornag en Tunisie qui a pris la poudre d'escampette. En arrivant au tribunal où il devait être jugé, il s'est libéré de ses menottes et sorti du fourgon pénitentiaire et s'est barré au loin en courant.
Le même jour, décidément, au petit matin, 14 détenus ont réussi à se barrer de la tôle d'Itabuna au Brésil. Un tunnel de 30 mètres de long, une torche pour éclairer le passage et la liberté de l'autre côté du trou. À l'ancienne, bravo.
Mardi 22, une personne qui était en garde à vue au commissariat de Poitiers a tenté sa chance. Devant la porte grande ouverte du Comico, il est parti en courant, comme ça d'un coup. Il a rejoint la gare, traversé un parking, puis sauté dans une rivière avant d'être rattrapé par les flics. Malheureusement, il a pris 6 mois ferme en comparution immédiate.
Mercredi 23 avril, c'est une corde de 15 mètres de long qui a été retrouvée dans une cellule de la tôle d'Arras. Dans cette même tôle, c'est les détenus qui creusent régulièrement murs et plafonds pour se faire la malle. Le vent de la liberté souffle en Pas-de-Calais.
Le lendemain, c'est un détenu de Laval qui a tenté de s'évader de l'hôpital. En sortant de l'hosto, il a simplement pris les jambes à son cou pour ne pas retourner en tôle. Malheureusement, il a été rattrapé par les matons.
Le même jour, dans la soirée, une centaine de personnes ont tenté de franchir la frontière qui sépare le territoire marocain de l'enclave espagnole de Melilla, soit un triple grillage de 7 mètres de haut. Une vingtaine a réussi après avoir affronté les gardes frontières et plusieurs migrants ont été blessés.
Rebelote, hier, le 1er mai, ça a commencé au petit matin. 500 personnes ont tenté de franchir la même frontière de Melilla. Sur ces 500 personnes, 140 ont réussi à rejoindre le territoire espagnol. Bien joué. Quelques heures plus tard, un nouveau groupe de 200 personnes a tenté sa chance, mais personne n'a réussi à passer. Donc au total, ça fait 670 personnes qui ont été interpellées. Une vingtaine ont été hospitalisées suite à des blessures causées par les fils barbelés et par les flics espagnols et marocains.
Aujourd'hui, un détenu s'est évadé d'une prison de Milan en Italie. On ne sait pas comment, mais on lui souhaite une belle cavale. Et on enchaîne directement avec les messages, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, c'est parti.
Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. L'autodétermination des peuples, des langues, est à défendre, à soutenir, à combattre pour. laissons la parole aux familles de prisonniers et prisonnières basques. Nous parlons de ce qui se passe là-bas au Pays Basque, de ce qui se passe ici dans les tôles de Corba, Villefranche, Roanne. Parce que les luttes n'ont pas de frontières ni de murs. Askatasuna. Liberté et solidarité.
Kaixo, Ione. Bego naiz. Zemuz. Neska, bueno, ba, mesutxo adiratzeko eta esateko asko maite zaitugula. Eusteko goiari. Eta, ba, hori, besarka dagoixoak eta laizter ikusiko garela. Bale? Musutxoak.
Jone, un beso. Soy Mandy. Y un abrazo.
Vale, eskerrik asko.
Apa, neska mutilek, a ber, Durango aldetik oierren partez, ba, egiz izan, ez dakit, telefono bati itzeiki arraru eda, eta sentimentuek transmititzie, ba, niretzako asko arraru hau, baina, bueno, ba, Bilefjaus eta Korbazen zauzen kide hoi, ez, elkartasun mesu hau. Bueno, momentu honetan Donosti aldetik nabil, eta esan ginke, ez dakit, tipiko da Euskaldun edo nartin euraldizia zitik eta euraldi edarraiken dau, eta eguzki printze honek ez, arratzaldeko honek eguzki printzeko oso honek, ba, zuei zuentzako edo, zuei bialtzu zueguz, eta ba, musu pilo bat ebai. Azte zantu, bueno, aberri egune ba, pasauzan euripien, baina eguzki pilo bat dira dene altzazua aldien ez, eta esan geinke, bueno, ba, Euskal Gazterize gogor datorrela, eguzki printza indartxu pilo bat elkartu zira berton, eta, bueno, nine buena oso gaztie, baina eguzki printze horrek ikusi nebazan, da benetan animetako moduko da, borrokarako presta eta borrokarako gai gatoz, datoz eta orduan, bueno, ba esetxi, eutxi eta bezarkada potolo bat zuei danoi, eta, bueno, hemen esan den moduen denok alain horrez eta azken aurten arte ez gara geldituko eta hori oso argi eukin, bale? Venga ba, musu pilo bat eta aurrera bolie. Eskerrik asko, musu. Merci, bonsoiré.
Au revoir.
Ah, opa, compañeros, soy Tomás, el aita de la Ione. Bueno, mejor que compañeros, camaradas, ¿no? En la víspera del 1 de mayo. A ver, joder, me cuesta hablar sin interlocutor directo, pero bueno, a ver qué me sale. Que bueno, deciros que he subido de la cuadra ahora y os he tenido mientras trabajaba en el recuerdo. Lo habéis notado también, ¿no? Las ovejas, el olor a hierba seca, a la leche de nuestra oveja lacha. Y también habréis oído algún grito al perro, a Iki, que no se ha portado como debida y me ha hecho trabajar un poco más de la